Oh, aleluya. Merci d'être venu un jour habiter nos vies et avoir fait de nos corps ton temple, ton habitation en esprit. Seigneur, merci de tout cœur pour ces moments que nous venons de passer en ta présence et devant ta face. Ces moments nous ont permis de nous exprimer librement devant toi le sauveur de nos âmes, de nos esprits et de nos corps. Ces moments nous ont permis, ô Seigneur, de nous approcher de toi, pour épancher tout notre être devant toi. Et en étant devant toi, Seigneur, nous pouvons alors accomplir notre raison de vie, notre raison d'être ici-bas. Apprends-nous, ô Père, à nous approcher régulièrement de toi pour entrer dans ton palais céleste. Et là, devant ton trône, Seigneur, invoquer ton nom, te célébrer, te louer, exprimer notre reconnaissance d'une manière ou d'une autre. Car nous sommes des sacrificateurs dans ton royaume. Et en tant que tel, Seigneur, tu attends de nous que nous puissions nous approcher de toi régulièrement, entrer dans ta présence régulièrement, aller au-delà du voile, Seigneur, et paraître devant ton trône pour nous livrer à toutes ces activités sacerdotales. Mais il y a aussi un temps où tu nous demandes d'entrer dans l'arène prophétique, où, Seigneur, par l'intercession royale, nous faisons descendre le ciel ici-bas. Nous manifestons ton règne, qui est un règne puissant, un règne de puissance, un règne de restauration. Quand ton règne se manifeste, alors les miracles deviennent possibles. Père, aide-nous à assumer cette double vocation. Oh, merci pour tout. Nous voulons maintenant nous asseoir à tes pieds et te tendre une oreille plus qu'attentive pour recevoir le message de ta parole. Aide ton serviteur à délivrer ta parole en étant sous l'inspiration divine. Aide-le, Seigneur, à proclamer ta parole de manière à ce que ton peuple puisse la recevoir comme étant une parole qui vient de toi. La recevoir et puis ensuite la mettre en pratique. Merci de nous aider à grandir, Seigneur, dans la foi alors que nous marchons avec toi. Merci de nous aider à comprendre que nous sommes appelés à entrer dans cette dynamique de la foi qui transforme l'impossible à possible. Nous voulons demeurer, entrer de plein pied dans cette réalité, faire preuve non seulement d'une foi vivante en toi, mais aussi être animé de ta foi, la foi de Dieu, celle qui nous fait entrer dans l'univers des miracles. Oui, bénis ta parole. Sanctifie-la au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, veuillez vous rasseoir. Bien, nous allons continuer avec notre thème. Il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à dire, que comme je vous l'avais dit, ben, le but ici, ce n'est pas de couvrir la matière comme si nous étions dans une école. Non, pas du tout. Le but, c'est que chacun de nous comprenne combien il est important de grandir dans le domaine de la foi, de marcher par la foi, combien il est important de connaître quelles sont les conditions que nous devons remplir en amont pour qu'enfin, en aval, nous puissions entrer dans cette foi qui rend possible l'impossible pour entrer dans l'univers du surnaturel. Alléluia. Comment voir l'invisible? La foi en Dieu, la foi de Dieu, eh oui. Nous allons relire très rapidement notre passage. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir par rapport à ce passage et en particulier par rapport à la parabole qui est donc la réponse à la requête des disciples, la réponse à leur prière, Seigneur, augmente-nous la foi. Nous sommes au verset 5, de Luc chapitre 17, où la Bible nous dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et vous obéirez. Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître ses troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, viens tout de suite te mettre à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi le repas, mets-toi en tenue ou ceins-toi pour me servir, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait que ce que nous devions faire. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Augmente-nous la foi. Quelle prière merveilleuse. Quelle requête extraordinaire et tout à fait légitime que les apôtres adressent au Seigneur. Et au lieu de leur donner une recette toute faite, de leur montrer une démarche mystique qui conduirait à l'expérimentation de cette foi capable de déplacer un mûrier ou un arbre, de déplacer n'importe quelle montagne, cette foi qui rend possible ce qui est impossible, cette foi qui nous fait entrer dans le domaine surnaturel, à cette requête, le Seigneur ne propose pas une formule spirituelle, il ne propose pas une recette toute faite. Au contraire, il répond à cette requête par cette parabole. Et cette parabole, comme nous l'avons vu, comme je l'ai introduit la fois dernière, est vraiment la réponse à leur requête. Vous voulez avoir la foi? Eh bien, écoutez-moi bien. Et c'est là qu'il leur donne un enseignement sous forme de cette parabole qui est, mes amis, remplie de vérités dont nous avons besoin pour pouvoir créer des conditions en nous afin que cette foi-là naisse et se manifeste. C'est donc la réponse du Seigneur. Mais comme je l'ai souligné, malheureusement, la manière dont ce passage, comme tant d'autres, d'ailleurs, sont découpés, sont délimités, eh bien, a poussé certains à isoler la requête du reste de la parabole. C'est ainsi que nous avons vu que pour certains, dans ce passage, ou du moins dans les 10 premiers versets de Luc 17, il y a des versions qui ont découpé, qui ont délimité ce passage en 3. Il y a d'abord les occasions de chute, et puis ensuite, il y a la foi, augmente-nous la foi, et enfin, il y a donc la parabole des serviteurs inutiles. Et d'autres versions, d'une version à l'autre, ça change. D'autres versions, eh bien, eux, ils ont une césure, une coupure entre le verset 5 et 6. Donc, vous avez un premier bloc, verset 1 à 5, et puis vous avez le deuxième bloc, versets 6 à 10. Mais comme je l'ai souligné, au départ, il n'y avait pas de délimitation dans la parole de Dieu. Tout ceci a été fait dans le but de nous permettre une lecture, de nous faciliter la compréhension. Mais malheureusement, cette approche qui consiste à atomiser le texte biblique, qui consiste à le découper, eh bien, à amener certaines versions à isoler la requête des apôtres de l'enseignement que nous trouvons dans la parabole. Puisque, au départ, il n'y avait pas toutes ces délimitations, il n'y avait pas le chapitre, il n'y avait pas des versets, quand on lisait la parole de Dieu, on la lisait dans son intégralité. Cette délimitation, ce système de découpage de la Bible en chapitres, et en verset est venu beaucoup plus tard. C'est à la fin, comme je le soulignais, à la fin du Moyen Âge, qu'un certain Robespierre, qui était donc un imprimeur et en même temps un ami du roi de France, François Ier, qui lui avait donc procédé à la délimitation, qui avait procédé donc à ces systèmes de chapitres et de versets. Donc, la parabole qui est là, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, eh bien, la réponse, eh bien, l'enseignement que le Seigneur leur donne en rapport avec leur prière. Oui, ils ont besoin de cette foi, la foi de Dieu, la foi qui nous fait entrer dans le miracle, une foi qui est quantifiable, une foi, oui, elle peut être petite, tout comme elle peut être grande, une foi qui rend possible ce qui nous paraît impossible. Une foi, eh bien, qui nous fait entrer dans la sphère du surnaturel, cette foi que le Seigneur objective, c'est-à-dire, il nous la présente comme une donnée objective qu'il peut nous donner et que nous pouvons recevoir. Et donc, cette foi-là, mes amis, naît à certaines conditions. En d'autres mots, il faut que des choses soient faites en amont. Il faut que nous puissions faire des choses, avoir une certaine conduite, un certain comportement, connaître certaines vérités, si nous voulons expérimenter cette foi. Comment peut-elle devenir une réalité pour nous? Voilà donc une question qui vaut son pesant d'or. Je veux entrer dans cette vie de miracle. Je veux mener une vie qui soit marquée par le surnaturel. Mais comment cette foi peut-elle devenir une réalité? Comment peut-elle naître en nous et nous permettre, mes amis, de déplacer des montagnes de problèmes, de déplacer des montagnes quelles qu'elles soient, de s'adresser à un mûrier et puis de voir ce mûrier, cet arbre, être déraciné et obéir. Eh bien, nous allons nous concentrer maintenant, à partir d'aujourd'hui, sur la parabole elle-même, sur l'enseignement que le Seigneur nous donne au travers de cette parabole. Elle est très simple. Il est question d'un serviteur qui travaille dans le champ, qui travaille parmi les bêtes, s'occupe de l'élevage. Les deux activités, eh bien, sont des activités par rapport aux choses qui n'appartiennent pas au serviteur, mais plutôt à son maître, n'est-ce pas? Et quand il revient, alors qu'il est fatigué, il a travaillé sous le soleil, il a transpiré, il a pris soin de ses animaux, il a labouré le champ, il a enlevé des mauvaises herbes, bref. Après avoir été actif dans les choses qui appartiennent à son maître, il revient à la maison, n'est-ce pas? S'attendant à ce que, le maître le reçoive, lui dise tout de suite, très bien, serviteur, allez, tu peux aller manger, tu peux aller boire. Mais quand il revient, c'est autre chose. Voilà. Le maître lui dit, voilà, tu avais la tenue de travail, cette fois-ci, ceins-toi. Non pas continuer à faire ce que tu as fait, mais cette fois-ci, ceins-toi par rapport à moi. Prépare-moi à manger. Donne-moi à boire. Donne-moi à manger. Quand j'aurai mangé, quand j'aurai bu, alors, toi, tu mangeras. Alors, toi, tu boiras. Alléluia. Alors, nous allons regarder autour et alentour de ce passage. Et en y regardant, en jetant un regard objectif, eh bien, nous voyons que l'enseignement principal que nous trouvons dans cette parabole s'articule autour, s'articule d'une part, voilà, premièrement, d'une part, autour de la condition du serviteur et de la relation de celui-ci avec son maître. Il y a sa condition, c'est qu'il est, et puis il y a sa relation au maître, et d'autre part, cette relation s'articule autour de la relation que le maître a vis-à-vis de son serviteur. Voilà la première observation. Vous avez le serviteur qui est dans une condition d'esclave, comme nous le verrons, et c'est ce esclave-là appartient à son maître. Il vient de nulle part. Il y a donc un lien d'appartenance. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cet enseignement tourne aussi autour de la relation que le maître a avec son serviteur. Voilà. Quand il revient, eh bien, on voit qu'il y a un dialogue. On voit qu'il y a une communication. On voit qu'il y a une relation vivante qui amène le maître à lui demander des choses. Et puis ensuite, le serviteur obéit. La deuxième observation, c'est que dans cette relation, le maître, au service duquel le serviteur est, le maître et sa volonté, c'est-à-dire la volonté du maître, reste la priorité pour l'esclave, pour le serviteur. Alléluia. Le maître, il a fait ce qu'il pouvait quand il était au champ, quand il s'occupait de bêtes qui appartenaient ou qui appartiennent à son maître, voyez? Et quand il revient, eh bien, il doit s'occuper de son maître. Donc, le maître a une volonté. Sainte-toi, prépare-moi, jusqu'à ce que je mange et je boive. Voyez. Donc, le maître a une volonté. Le maître reste maître. Et par conséquent, dans cette relation-là, le maître est là. Et sa volonté reste une priorité pour son serviteur. Il n'est pas du tout question que le serviteur fasse passer ses besoins, fasse passer ses attentes avant les attentes de son maître. Vous voyez? Et vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir dans cette parabole. Il y a donc d'un côté le maître et sa volonté. Ça, c'est important. Le serviteur ne peut pas être un véritable serviteur s'il ne connaît pas la volonté de son maître. Et de l'autre côté, le serviteur doit toujours savoir quelle est sa condition. Il n'est pas un fils de la maison, n'est-ce pas? Il n'appartient pas à la famille. Il ne peut pas réclamer un quelconque droit. Il doit donc être conscient, ce serviteur-là, qu'il est un vrai esclave. Un esclave ne possédant rien et qui est appelé à se soumettre totalement et entièrement à son maître. Alléluia. S'il veut manger, s'il veut boire. Bref, s'il veut que ses attentes, ses besoins soient pleinement rencontrés par son maître. Et entre les deux, il y a donc une relation. Ça, c'est important. Je reviendrai là-dessus. Il y a une relation qui va dans les deux sens. Le maître a une volonté. L'esclave en a aussi une. Mais vu sa condition, étant donné ce qu'il est réellement, eh bien, il n'a d'autre volonté que de se soumettre à celle de son maître. Alléluia. Car le maître a tout ce dont le serviteur a besoin. Et pour que le serviteur jouisse pleinement de choses dont il a besoin, et ce, auprès de son maître, eh bien, il n'a pas d'autre choix que de dépendre entièrement et totalement de son maître. Vous êtes toujours avec moi? Gloire au Seigneur. Et donc, vous avez d'un côté un serviteur, de l'autre côté, vous avez un maître. Le serviteur est dans une condition d'esclave. Le maître possède tout. Entre les deux, il y a une relation. Et tout va dépendre de plusieurs facteurs en rapport avec la condition du maître, de l'esclave, mais aussi en rapport avec sa relation à son maître. Nous avons donc là deux grandes vérités. Il y a d'un côté la condition de l'esclave, du serviteur, et de sa relation avec son maître. Alléluia. Mes amis, la manière dont le serviteur va vivre sa condition n'est pas murmurer, n'est pas parler dans le dos du maître, car les murs ont des oreilles, oui ou non? Voilà. Ne pas faire le travail en murmurant, sans vouloir plaire à son maître. Voyez? La manière dont il va vivre sa condition de serviteur, nous examinerons cette condition-là. Et la manière dont il va gérer sa relation avec son maître, eh bien, tout cela a une importance capitale. Alléluia. C'est ce qui va donc déterminer en amont et de façon inéluctable les conditions qui permettront ou non la naissance de cette foi dans le miracle. Alléluia. Donc, ce n'est pas une foi qui tombe sur nous au hasard. Ce n'est pas parce qu'on a jeûné 40 jours que tout d'un coup, cette foi arrive. Mais il y a tout un processus. Et la parabole nous révèle justement ce processus. On part d'un point alpha pour arriver au point oméga. Voyez-vous? Et donc, il y a des vérités que nous trouvons dans ce parcours, dans ce processus-là. Des vérités en rapport avec le serviteur, sa condition, ce qu'il est véritablement. Des vérités en rapport avec le maître, car c'est important. Le serviteur n'est serviteur que parce qu'il y a un maître, oui ou non? Voilà. Donc, il appartient au maître. Et entre les deux, il y a donc la relation. Mes amis, là, les choses commencent à devenir claires. Si nous voulons pénétrer dans ce domaine-là, où l'impossible devient possible, si nous voulons avoir la foi de Dieu, eh bien, nous devons savoir qui nous sommes véritablement aux yeux de celui qui est notre maître. Qui sommes-nous véritablement? Et qui est-il par rapport à nous? Quelle est sa volonté pour nous? Et en même temps, être pleinement conscient de l'importance d'avoir une relation qui repose entièrement sur une soumission volontaire. Voyez-vous? Sur une dépendance totale du maître, sur une confiance absolue dans son maître. Il me demande de continuer encore. Après avoir servi dans ce qui lui appartient, je reviens, voilà qu'il me demande cette fois-ci de s'occuper de lui. Eh bien, le serviteur ne va pas murmurer. Il va se dire, il sait ce qu'il fait. Voyez-vous? Et à la fin, le maître dit, le serviteur mangera absolument, le serviteur boira absolument. En d'autres mots, les besoins dans lesquels il se trouve seront rencontrés. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Alors commençons avec la condition du serviteur. Car il est important qu'il sache qui il est. Il n'est pas un contremaître, n'est-ce pas? Il n'est pas un cadre. D'ailleurs, dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de cadre. Ah non. Voilà. Nous sommes tous des serviteurs. Voilà. Tu ne peux pas venir la main dans la poche, tu sifflotes et tout ça, en disant, écoutez, nous sommes l'élite. Il y en a qui donnent l'impression aux fidèles, d'être spéciaux. Locuta. C'est faux. Nous sommes tous logés à la même enseigne, l'enseigne de la grâce. Nous sommes tous sauvés par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et donc, peu importe les fonctions que nous avons, les responsabilités que nous assumons, peu importe notre position dans la société, eh bien, il n'en demeure pas moins qu'aux yeux du Seigneur, nous sommes appelés à être des serviteurs. Et puisque cet élément est important dans la naissance, dans l'émergence de cette foi de Dieu, alors la première chose que nous devons examiner, c'est la condition du serviteur. Qui est-il, ce serviteur? À l'époque, quand on va par exemple à la cour des rois, on trouvait, et encore aujourd'hui, on trouvait plusieurs serviteurs qui travaillaient à la cour, n'est-ce pas? Mais il y en a, tout en travaillant à la cour royale ou impériale, eh bien, étaient censés ne rester que dehors. Parce qu'ils s'occupaient de comment? Du jardin, ils s'occupaient de ceci ou de cela, nettoyaient l'extérieur, afin que l'extérieur brille. Merci, Patrick. Vous voyez? D'autres, en revanche, avaient ce privilège d'entrer dans le palais royal. Vous êtes toujours avec moi. Et donc, c'était un privilège qui revenait à certains, pas à tous. Et même ceux qui avaient ce privilège d'entrer dans le palais royal, il y en avait d'autres qui avaient un privilège exceptionnel. Celui de voir la face du roi. Car n'importe qui ne pouvait pas se tenir devant le roi. Il y avait des conditions, il fallait être appelé, enfin bref. C'était le panetier et puis les échansons. C'est-à-dire ceux qui donnaient à boire et à manger au roi. Et ils allaient, après s'être saints, après avoir mis une tenue spéciale, pour aller servir le roi. Et ce service se faisait dans certaines conditions. Voyez-vous, rappelez-vous de Néhémie, quand il apprend la détresse de son peuple, que Jérusalem détruite et tout ça, il va pleurer. Il va prendre du temps dans le jeûne, dans la prière. Il va chercher la face de Dieu pendant quelques mois. Voyez? Et puis un jour, il va se présenter devant le roi, mais il avait une mine triste. Voilà. Il était là abattu. Au point où le roi a vu cela, ça aurait pu lui coûter très cher. Le roi l'a interpellé. Tiens, qu'est-ce qui fait que tu aies ce visage-là, cette mine? As-tu un chagrin d'amour? As-tu des problèmes, etc.? Parce qu'il fallait avoir une certaine posture. Voilà. Il fallait toujours avoir un visage qui plaise au roi. Et c'est là qu'Néhémie lui dira la vérité. Comment voulez-vous que je sois dans la joie, mon roi, quand mon peuple souffre, etc. Et donc, vous voyez, il était échanson. Il avait cette grâce de se tenir devant Dieu, et plutôt devant le roi, et de le servir. Donc, vous voyez, on parle de serviteurs, mais il y a serviteurs et serviteurs. Voilà. Et ce serviteur, dont il est question dans la parabole, a cette grâce non seulement d'être actif dans les choses qui appartiennent à son maître, mais aussi, quand il revient au palais, d'entrer dans le palais et de paraître devant son maître. Alléluia. Alors, la condition du serviteur, c'est qu'il est esclave. Voilà. C'est un esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui est sous la puissance absolue de quelqu'un. Voilà. Qui est sous l'autorité absolue de quelqu'un. Un esclave, c'est quelqu'un qui se soumet volontairement et entièrement à son maître. Et donc, le serviteur dont il est question ici est appelé à être un esclave. Un esclave. Si je veux utiliser un terme grec, un doulos. Et d'ailleurs, le mot douleur vient de là, doulos, esclave. Car le lot des esclaves à l'époque, c'était la douleur. L'esclave n'avait aucune volonté, c'était comme un animal complètement déshumanisé. Vous voyez? Et donc, il dépendait totalement. D'ailleurs, ils portaient les seaux, et nous le verrons, de leur maître. Leur maître pouvait décider de s'en débarrasser, ou de le vendre, vous voyez, de le proposer à d'autres familles riches, etc. Il est esclave. Et par rapport à cette notion d'esclave, eh bien, il y a deux réalités, deux vérités qui caractérisent cette condition d'esclave. Quelles sont ces caractéristiques? Premièrement, la première caractéristique, c'est que l'esclave appartient totalement et entièrement à son maître. Voilà. Il n'est pas du tout question que quelqu'un d'autre puisse avoir certaines volontés. Voilà. Et donc, il appartient entièrement à son maître. Nous aussi. Et c'est ce que le Seigneur voudrait faire savoir à ses disciples. Nous devons appartenir totalement à notre maître. Le Seigneur veut tout. Il ne veut pas nous partager avec qui que ce soit. Alléluia. Donc tout ça pour que vous compreniez, pour que nous comprenions l'importance de vivre pleinement notre condition de serviteur. Et non pas de patron, et non pas de contremaître dans l'œuvre de Dieu. Mais tous des serviteurs, tous appelés à être esclaves. D'ailleurs, l'apôtre Paul, qui est un modèle pour nous, voilà, ce qu'il a écrit est appelé aujourd'hui parole de Dieu. Il a demandé à plus d'une fois aux chrétiens de son temps d'être ses imitateurs, comme lui était imitateur de Dieu. N'est-ce pas? Et donc, cet homme-là se présente, quand il dit Paul, apôtre et serviteur du Christ, normalement c'est le mot doulos. Voyez? Parce qu'en grec, vous avez un terme pour parler du serviteur, diakonos qui a donné le diacre, ou diakonès. Mais Paul se présente comme un doulos. Il se présente comme un esclave. Voilà. C'est ainsi qu'il pourra dire, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Je dépends totalement de lui. Je n'ai plus rien à dire sur moi. Celui qui a le premier mot dans ma vie, sur ma vie, c'est aussi lui qui a le dernier mot. Vivre pleinement cette condition d'esclave, c'est-à-dire ne jamais oublier à qui nous appartenons. Voilà pourquoi celui-là nous dit, soyez saints comme je suis saint. Marchez dans la vérité parce que je suis la vérité. Marchez dans l'amour parce que je suis amour. Donc vous voyez, nous devons savoir à qui nous appartenons. Nous ne pouvons pas, mes amis, prétendre lui ressembler si nous ne savons pas qui il est. Et en même temps, si nous ne comprenons pas notre condition, qui est donc celle d'esclave. Voilà donc la première caractéristique. La deuxième caractéristique d'un esclave, à part le fait qu'il appartient à son maître, c'est que l'esclave dépend totalement et entièrement de son maître. Pour tout. Pour tout. Le maître le loge, oui ou non? Le maître lui donne à manger. Le maître prend soin de lui. Voyez-vous? Mais il faut que l'esclave vive pleinement sa condition. Donc voilà les deux caractéristiques. L'appartenance de l'esclave à son maître, et puis ensuite la dépendance totale et entière de l'esclave à son maître. Et par rapport donc à ces deux vérités, l'esclave est appelé à y veiller. Vous comprenez pourquoi le verbe « veiller » revient constamment dans la parole de Dieu. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, eh bien, nous devons veiller. Veiller à ne jamais oublier que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons prêché, les gens ont été bénis, eh bien nous devrions réagir comme le Seigneur le dit. Et vous, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné de faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Et donc, il doit veiller à son statut, à sa condition, c'est-à-dire il est esclave. Il doit vivre avec cette mentalité d'esclave. Mais s'il commence à croire que lui aussi peut faire des choses comme son maître, s'il commence à vouloir prendre la place de son maître, eh bien cet esclave n'ira jamais loin. C'est important. Nous comprendrons encore mieux toutes ces vérités lorsque nous parlerons d'un renoncement à soi. Être esclave, c'est renoncer à soi-même. Alléluia. C'est se charger de sa croix. Et puis ensuite, de se mettre au service du Seigneur. Et nous devons veiller, j'insiste là-dessus, parce que trop souvent nous oublions qui nous sommes. C'est ainsi qu'on a vu des gens que le Seigneur a ramassés sur le trottoir de la vie. Ces gens-là étaient complètement abandonnés, ils étaient considérés comme des ordures de la société. Ils n'avaient aucune valeur. Oui, eux-mêmes remplis de complexes d'infériorité, eh bien, n'osaient même pas se regarder dans le miroir en disant, mais nous sommes venus accompagner les autres. Toye Kotika, Bamosus. Non, Dieu a un plan pour toi. Les autres sont là, mais il faut pas regarder aux autres. Tu ne dois pas mesurer ta vie à l'aune de la vie des autres. Dieu t'a appelé toi. Alléluia. Et donc tu dois veiller. C'est important. Veillez et priez, n'est-ce pas? Veillez par rapport au retour du Seigneur. On nous demande de veiller parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il reviendra. Et donc ce verbe-là, nous devons apprendre à le conjuguer lorsqu'il est question de notre condition. Que je n'oublie jamais qui je suis. Que je n'oublie jamais que ce n'est pas moi qui ai commencé cette église. C'est ça. Qu'il y en a un qui a commencé. Et puis le Seigneur l'a rappelé. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, hein, ou je l'ai dit un vendredi. Si vous venez aujourd'hui dans mon bureau, vous allez voir qu'il y a deux sièges. Il y a un siège sur lequel je m'assieds. Et puis il y a un autre qui est vide, juste à côté de moi. Ce siège qui est vide, je l'ai placé, je l'ai pris chez moi, je l'ai amené. Parce que ce siège-là a toute une histoire. C'est le siège qu'a occupé le pasteur Vernon. Quand je suis arrivé, j'avais laissé le bureau à son épouse qui a occupé ce siège. Quand son épouse est décédée, j'ai repris ce siège-là. Parce que j'en avais besoin. Vous voyez? J'ai commencé à l'occuper. Quand on m'a acheté un nouveau siège, je l'ai pris, je l'ai amené chez moi. Je l'ai tellement utilisé que ce siège a fini par s'user. Je n'ai pas voulu m'en débarrasser. Je l'ai pris, je l'ai amené au bureau. Il est à côté de moi. C'est toute une leçon. Là où tu es, sache que quelqu'un a été avant toi. Ce siège est vide. Il l'a occupé. Un jour, je l'ai repris auprès de moi. Toi aussi, tu l'as occupé. Un jour, tu le laisseras. C'est ça, vivre avec la pensée de serviteur. La pensée d'être esclave par rapport au Seigneur. Je n'ai rien qui m'appartient. Tout est à lui. Nous lançons tous ces travaux. C'est pour lui. Un jour, nous passerons. D'autres viendront. Mais le plus important est que lui soit toujours là. Et ainsi, ce siège-là est une leçon pour moi et pour tous ceux qui viennent. Il est vide, inoccupé, usé. On voit déjà le cuir qui se décolle. D'ailleurs, les accoudoirs ne tiennent plus. Tu peux enlever tout ça, mais je garde ça. Avec le nouveau temple, puisque nous aurons un rayon qui va accueillir les archives, eh bien, ce siège sera là-dedans. 50 ans plus tard, les gens passeront, pourront voir ce siège-là en disant, « Ah, celui par qui le Seigneur avait commencé cette église, s'était assis là. » Et puis l'autre est venu, il s'est assis là, et les deux ne sont plus, mais lui est toujours là. Acclamons son nom. Donc nous devons veiller. Il y en a qui ont repris des églises, qui ont commencé à se comporter comme si c'est eux qui avaient commencé l'église. Ah non, mes amis. Et quand bien même vous commenceriez une église, elle n'est pas à vous. Vous allez passer. Elle n'est pas à ta famille. Tu vas passer. Mais aujourd'hui, les églises sont considérées comme des propriétés personnelles. Voilà. Tu ne sais pas que c'est mon église. C'est moi qui l'ai commencé. Tu sais quoi? Tu étais où? Allez, d'ailleurs, pars! Et on chasse les gens comme ça. Attention. Attention. Lui qui a dit, je bâtirai mon église là, t'attends là-haut. Quand tu seras de l'autre côté, tu devras maintenant lui prouver en quoi l'église t'appartenait. Je n'aimerais pas être à la place de ceux-là. Voyez-vous? Je crois que pour ceux qui nous suivent, il n'est pas encore trop tard. Change le fusil d'épaule. Considère-toi comme un simple serviteur. Et veille à ne jamais oublier ta condition. J'ai fait ce que le maître me demande de faire. Mais je ne suis qu'un serviteur inutile. Pour arriver à ça, il faut être pleinement conscient de sa condition de serviteur. Alléluia! Gloire au Seigneur! Il doit veiller. Il doit être vigilant pour que l'ennemi ne puisse pas lui injecter des pensées de nature à lui faire croire que lui est spécial. C'est ce qu'on voit avec certains pasteurs, hein. Certains prophètes, certains bishops ou quadrichops. Faut les voir marcher. Faut les voir parler de l'église. Voyez? C'est mon église, oui. Si tu prends cet adjectif dans le sens affectif du terme, oui, mais pas possessif. Il n'y a qu'un seul qui peut dire mon église avec les deux sens, affectif et possessif. C'est mon église, a dit Jésus, parce qu'il aime son église. C'est mon église, a dit le Seigneur, parce que il en est le propriétaire absolu. Lui seul peut dire c'est mon église. Mais nous pouvons dire aussi, c'est mon église, j'avais exploité ça il y a longtemps, dans le sens affectif du terme. C'est ainsi que Paul pouvait dire mon évangile. Cela ne voulait pas dire que Paul, à un moment, s'est accaparé de l'évangile du Christ et c'est devenu son évangile. Non, pas du tout. Il y avait un lien indéfectible entre lui et le message du Christ. Point où il pouvait dire mon évangile. Alors veillons, et nous allons nous arrêter là. Veillons à notre condition de serviteur. Sachons que nous ne sommes que des esclaves, appelés à dépendre totalement, entièrement de notre maître. Si nous entamons ce processus-là, eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Les conditions pour la naissance de cette foi-là commenceront à se mettre en place. Et au terme de ce processus, nous entrerons dans la foi de miracle, dans l'univers du surnaturel. Acclamons le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour le message de ta parole. Ô combien nous aimerions grandir dans le domaine, Seigneur, de la foi. Mais cette croissance n'est possible qu'à certaines conditions. Aide-nous à remplir ces conditions. Aide-nous, Seigneur, à comprendre qui nous sommes véritablement à tes yeux. Nous sommes appelés à être des serviteurs qui se considèrent comme étant tes esclaves à toi, comme ceux qui nous ont précédés, comme les apôtres et tant d'autres, qui ont vécu pleinement cette condition d'esclave. Ces gens pour qui tu étais devenu leur vie, ils avaient compris leur condition, ils ont vécu pleinement en harmonie avec leur condition. Et en tant qu'esclaves, tes esclaves, ils avaient appris à dépendre totalement et entièrement de toi. Et la relation, leur relation avec toi aura occupé une place importante, aura été une priorité pour eux. Et ce n'est donc pas étonnant qu'ils aient vécu autant de miracles, qu'ils aient accompli ton œuvre avec puissance, qu'ils aient fait descendre le ciel sur terre, dans n'importe quelle circonstance, parce qu'ils avaient appris à mourir à eux-mêmes, afin de vivre pour toi. Ils avaient appris à renoncer à eux-mêmes, à se renier eux-mêmes, à prendre leur croix et à marcher avec toi. Et au terme de cette marche, eh bien, les conditions pour l'émergence, la naissance de cette foi étaient remplies et ils ont expérimenté des grandes choses. Merci de nous aider, Seigneur, dans ce processus. Merci pour tout. Amen.